on va parler des sorties.
Alors,
on va commencer par Sounds of Philadelphia de Jérémy Guez avec Mathias Kunhardt et Joel Kinnaman. Philadelphie, il y a 30 ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la mort de son père. Dans des circonstances opaques, aujourd'hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats au tempérament opposé. L'un est aussi violent et exubérant que l'autre est taciturne. On sent, Laurent, l'ombre de Scorsese et surtout de James Gray.
Et voilà, Scorsese, James Gray, Clint Eastwood aussi. Oui. On pourrait aligner comme ça les noms de cinéastes américains pour ce cinéaste français, il faut le dire. Voilà, ouais. Il faut lui reconnaître cette, au fond, cette assez belle ambition de se mettre dans ces traces-là, dans ces pas-là. Et en même temps, le problème, c'est que dans ces cas-là, effectivement, l'héritage est tellement écrasant, l'héritage est tellement présent, et qu'il s'en détache très peu finalement, parce que le très gentil Peter face au très méchant Michael, on a l'impression d'avoir vu ça 25 fois, la surabondance des scènes nocturnes, la surabondance des scènes de violence qui tout d'un coup se déchaînent, sans oublier le passé traumatique qui revient par flashback. Bref, tout ça a une impression, donne une impression de déjà-vu, une grande maîtrise visuelle, deux grands acteurs face à face, mais est-ce que ça fait vraiment pour autant un film original? Je crains que non.
Pour autant, comme vous dites, il a signalé que ce film sera à l'affiche parmi beaucoup d'autres films noirs polars au festival Reims Polar.
Bravo.
Jusqu'à demain en ligne, 20 films au total, avant de retrouver Reims Polar pour de vrai l'année prochaine. The Father, premier film de Florian Zeller. C'est un voyage dans un pays dans lequel personne ne voudrait finir ses jours, dans Alzheimer, dans la tête d'un homme de 81 ans. Ses visions, ses absences, incarnées par Anthony Hopkins, un film adapté avec Christopher Hampton de la pièce que Zeller a créée en 2012. Un appartement comme un labyrinthe mental, oppressant, dans lequel les pièges peuvent surgir de partout, un tableau manquant, une montre perdue comme l'incarnation du temps qui file, s'arrête pour perdre finalement la notion de ce temps. Loin du théâtre filmé, le cinéma au contraire aide Zeller à illustrer subtilement ce chaos mental en jouant sur les décors et la mise en scène se fait onirique au centre de cette histoire. Il y a un acteur qui ne surjoue jamais, ni dans ses absences, ni dans cette conscience subite qui le rend cynique, agressif, avec même quelques relents lointains d'Hannibal. Parfois, il suffit d'un seul plan pour mesurer le talent d'un acteur. C'est celui où Hopkins se regarde dans le miroir. C'est très furtif. Il se regarde vraiment comme un moment de pleine conscience, seul face à lui-même. Oui, un moment de vérité face à lui. Et n'oublions pas, il y a Olivia Colman, la fille, le témoin, impuissante, comme nous tous, devant ce désastre, cette déliquescence.
Mais je serais moins, je serais un petit peu plus sévère. Et j'aurais juste à dire quatre postulats. Postulat 1, la vieillesse est un naufrage. Postulat 2, Anthony Hopkins est le grand acteur que vous venez de décrire. Postulat 3, un portrait clinique ne fait pas un film. Postulat 4, Zeller n'est pas un grand écrivain. Et je crains hélas qu'il ne soit pas un grand cinéaste. En tous les cas, quand on a une belle trouvaille littéraire comme celle qu'il a, à un moment du film où son personnage, le personnage qui est atteint d'Alzheimer, dit « je suis comme un arbre dont les feuilles tombent », à ce moment-là, comme le fait Zeller, mettre sa caméra face à un arbre dans la rue, moi ça me pose un problème. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage, c'est cette lourdeur didactique, je l'ai sentie tout au long du film.
Dommage.
Je suis pas d'accord
non,
du tout.
Merci,
je trouve
merci.
Le film magnifique, voilà. Extraordinaire et extrêmement touchant. Ça.
Eh bien, nos auditeurs iront se faire une idée en voilà. Dans les salles.
Vers la bataille, est-ce que c'est bien ce film-là dont on parle? Oui, Vers la bataille.
Hospitalité de... Non,
ah oui, Hospitalité, pardon. Ouais. Hospitalité, ce film incroyable, japonais. En fait, c'est des étrangers qui débarquent dans un appartement d'un japonais et de sa famille.
Ouais, c'est un film, faut le dire, il date de 2010. C'est un film de Koji Fukada, mais il était jamais sorti en France et heureusement qu'il sort. Alors, vous savez, il y a un truc, si on enlève le thème familial du cinéma asiatique, il y a 90% des films qui n'existent plus parce que depuis Ozu, c'est quand même la famille, ça fait le substrat de beaucoup, beaucoup de films asiatiques. Tant mieux, c'est intéressant. Mais là, il se greffe un thème alors que pour le coup, le cinéma asiatique, en tous les cas japonais, très, très, très peu alors que c'est un vrai problème sociétal. C'est l'immigration. Et il y a un formidable casting rassemblé pour ce film qui montre effectivement comment un squatteur va très gentiment, avec beaucoup d'humour, phagocyter une famille en les faisant d'ailleurs un par un chanter pour des choses qu'ils ont faites qui sont pas très claires. Il y a un dénouement paroxystique qu'on peut un peu regretter, mais c'est pas grave. Parce que franchement, l'humour avec lequel Fukada traite tout ça, traite de ces deux thèmes croisés, la famille et l'immigration, c'est tout à fait plaisant, singulier et très très attachant. Ça s'appelle Hospitalité.
Vous regrettez pas le paroxystique, mais vous regrettez l'arbre dans le film de
Florian
Zeller.
Vers
la bataille d'Aurélien Verne Hermusio au Mexique au 19e siècle, l'histoire d'un photographe français qui veut filmer la guerre coloniale mais incapable de prendre le moindre cliché et dont la rencontre avec un paysan va lui ouvrir d'autres horizons. Pour un premier film, on peut dire que c'est un sujet super ambitieux et passionnant, les débuts de la photo et cet anti-héros, comme un ancêtre des reporters de guerre face à l'horreur de la guerre, et déjà aux fake news, cette référence aux fake news. Seulement voilà, ce n'est pas Werner Herzog et ses ténèbres et sa poésie, même si Malik Zidi est un excellent acteur. Le scénario, malheureusement, ne donne pas assez de chair à son personnage, ni à l'amitié qui le lie à ce paysan. Enfin, pour nous impliquer vraiment, nous, spectateurs, malgré l'image très belle, malgré la musique moderne en contraste avec l'époque, avec ses vibrations, elle n'évite pas, malheureusement, l'ennui dans ce parcours initiatique. Et pourtant, c'est une belle promesse, on attend les prochains films de ce réalisateur.
Pas mieux.
Bon, d'accord. Si le vent tombe, de Nora Martirosyan. Ce film est parti d'un voyage que la réalisatrice a effectué au Karabakh, un pays avec une capitale, un président, une constitution, et qui pourtant n'existe pas sur le plan juridique et géopolitique. Après 10 ans d'aller-retour, c'est grâce au cinéma qu'elle va le faire exister à partir d'un décor stratégique, l'aéroport dans lequel aucun avion ne décolle ni atterrit, et dans lequel débarque un observateur international, c'est le français Alain Grégoire, incarné par Grégoire Collin.
Non. Tout à fait. Avec un personnage, un autre personnage central, qui est cet aéroport dont il faut citer le nom, Stepanakert.
Ouais,
c'est étonnant, c'est-à-dire qu'en plus il a été construit par un architecte plutôt inspiré parce qu'il en a fait une sorte de deux ailes. Donc c'est un énorme avion blanc très gros comme ça, un aéroport posé au milieu de rien, au milieu d'un concentré de routes qui n'aboutissent à rien. Et toute cette métaphore-là, toute cette image-là qui est récurrente pendant tout le film est formidable. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette espèce de la carte et le territoire en quelque sorte, que le film exalte en permanence, et puis ce petit personnage de technocrate qui va progressivement perdre ses illusions, mais aussi perdre ses idées reçues, en se confrontant aux Arméniens qu'il rencontre tout au long du film.
Un mot sur Grégoire Collin, parce que ce type est incroyable, cet acteur est fascinant. Cette grande silhouette, cette voix grave, cette belle gueule, c'est un acteur rempli de mystère comme son personnage. Collin, il est né acteur dans les années 90, très présent au cinéma de Claire Denis, vu ici et là, sans jamais percer vraiment, et comme si rien ne l'atteignait, ni la gloire, ni l'oubli. On espère le voir dans d'autres films, ce Grégoire Collin. On va terminer avec un doc, Laurent. En Sicile, Il mio corpo.
On dit juste beaucoup de bien de Balloon, passant le film tibétain de Penat Seden, qui est une façon très très intelligente de passer outre la censure chinoise qui interdit de remettre en cause notamment la politique de l'enfant unique. C'est un film extrêmement poétique, extrêmement ambitieux, avec une façon d'utiliser des préservatifs sous forme de ballon qui est absolument réjouissante.
Et enfin, donc je le disais, ce doc en Sicile.
Oui, de Michele Penata.
Deux destins en miroir.
Exactement. C'est un doc alors qui clairement joue sur la frontière entre le documentaire et la fiction, sans jamais choisir ou l'un ou l'autre, et c'est très très bien ainsi. On ne sait jamais sur quel pied le film danse, et sur nous du coup quel pied nous devons danser, mais c'est tout à fait justement surprenant et inquiétant, ce parcours croisé entre une famille de ferrailleurs et un immigrant nigérian. Ça s'appelle Il mio corpo.
Très vite, la rétrospective Chantal Akerman au Forum des Images à Paris, qui accueille le festival Premier Plan d'Angers, et avec un programme avec des gens qui vont présenter ces films, notamment Christophe Honoré le 6 juin qui présentera Golden 80s et puis deux festivals.
Oui, en vrai, retourner au cinéma, retourner aussi dans les festivals de cinéma, musique et cinéma à Aubagne jusqu'au 5 juin avec Ibrahim Malouf en invité principal, et puis cinéma à tous les étages, à Alès, le festival Itinérance, Yves Jelan, Fab Caro, Julie Gaillet, Jacques Iberoyer en sont les invités principaux, et 82 films inédits s'il vous plaît, c'est jusqu'au 9 juin.
45 secondes pour deux cadeaux, un cadeau par invité. On va commencer par qui, Laurent ?
Allez, on commence par Jean-Pierre Darroussin, deux Fellini sinon rien, les nuits Cabiria, voilà, chef d'œuvre absolu, Guleta Massina, c'est chez Tamaza, c'est un combo Blu-ray DVD, il y a un livret formidable d'Aldo Tasson, c'est l'occasion de redécouvrir vraiment cet immense film, qui est d'ailleurs la première collaboration, non, c'est pas la première collaboration avec Nino Rota, mais il y a une très très belle bande-son, évidemment, de Nino Rota, et puis Massina, la femme de Fellini,
François Perrier.
Sublime. Et François Perrier dans le rôle abominable d'un affreux.
Il a bien lu.
Et puis pour vous, Guillaume Braque, d'autres invités Vitelloni un peu, hein, même si vos Vitelloni à vous sont quand même génial. Pas à ce point-là des veaux, des crétins comme les montre Fellini dans ce magnifique film avec notamment Alberto Sordi et qui là est la première collaboration avec Nino Rota. C'est toujours en combo Blu-ray, DVD chez Tamasa avec un livret d'adaptation formidable.